Le gras, les poids si pesants.
Le colonel ne m'avait pas plu, mais il m'avait intéressé. On peut observer longuement fasciné même un lézard vert. J'étais en train de déguster les premières gouttes du poison qui nous mènerait tous à la perdition. Je revins chez Belbeau l'après-midi suivant et nous parlâmes un peu de notre visiteur. Belbeau dit qu'il lui avait fait l'impression d'un mythomane. Vous avez vu comment il citait ce Rokoski ou Rostopovitch comme s'il s'agissait de Kant? Et puis ce sont de vieilles histoires, dis-je. Un golf était un fou qui y croyait, le colonel est un fou qui croit à un golf. Peut-être y croyait-il hier et aujourd'hui il croit à quelque chose d'autre. Je vais vous dire, hier avant de le quitter, je lui ai fixé pour ce matin un rendez-vous avec un autre éditeur, une maison pas difficile, disposée à publier des livres autofinancés par l'auteur. Il paraissait enthousiaste. Eh bien, je viens d'apprendre qu'il n'y est pas allé, et dire qu'il m'avait laissé ici la photocopie du message. Regardez. Il sème à tout vent les secrets des Templiers comme si de rien n'était. Ce sont des personnages qui sont faits comme ça. Ce fut à cet instant que le téléphone sonna. Belbeau répondit. « Oui, ici Belbeau. Oui, maison d'édition Garamond, bonjour. Dites-moi. »« Oui, il est venu hier après-midi pour me proposer un livre. » « Excusez-moi, il y a un problème de discrétion de ma part, si vous m'expliquiez. » Il écouta pendant quelques secondes, puis il me regarda pâle et me dit « On a tué le colonel, ou quelque chose comme ça. » Il revint à son interlocuteur. « Pardon, je l'annonçais à Casaubon, un de mes collaborateurs qui était présent hier à l'entretien. Donc, le colonel Ardenti est venu nous parler d'un de ses projets, une histoire que je considère fantaisiste, sur un supposé trésor des Templiers. » C'était des chevaliers du Moyen-Âge. Instinctivement, il couvrit le microphone de la main, comme pour isoler l'auditeur, puis il vit que je l'observais. Il retira sa main et parla avec une certaine hésitation. Non, monsieur le commissaire, ce monsieur a parlé d'un livre qu'il voulait écrire, mais toujours d'une manière vague. Comment? Tous les deux? Maintenant? Je note l'adresse. Il raccrocha. Il garda le silence quelques secondes, tambourinant sur sa table. « Donc, Casaubon, excusez-moi, sans y penser, je vous ai mis dans le coup, vous aussi. J'ai été pris au dépourvu. C'était un commissaire, un certain De Angelis. Il paraît que le colonel habitait dans un meublé et quelqu'un dit l'avoir trouvé mort hier dans la nuit. Quelqu'un dit? Et ce commissaire ne sait pas si c'est vrai? Ce semble étrange, mais le commissaire ne le sait pas. Il paraît qu'ils ont trouvé mon nom et le rendez-vous d'hier marqué dans un carnet. Je crois que nous sommes leur unique piste. Que vous dire? Allons-y. Nous appelâmes un taxi. Pendant le trajet, Belbeau me prit par le bras. Casaubon, il s'agira sans doute d'une coïncidence. En tout cas, mon Dieu, j'ai peut-être un esprit tordu, mais dans mon coin, on dit « mieux vaut ne jamais donner de nom ». Il y avait une comédie de Noël en dialecte. Que j'allais voir quand j'étais gamin, une farce pieuse, avec les bergers dont on ne comprenait pas s'ils habitaient à Bethléem ou tout près de Turin. Arrive le roi mage, et il demande au valet de berger comment s'appelle son maître, et lui, il répond « Gelindo ». Quand Gelindo l'apprend, il se met à donner du bâton au valet parce que, dit-il, on ne met pas un nom à la disposition de n'importe qui. En tout cas, si vous êtes d'accord, le colonel ne nous a rien dit d'un golf et du message de Provins. « Nous ne voulons pas faire la même fin qu'un golf, dis-je. » En tentant de sourire. Je vous le répète, c'est une bêtise. Mais de certaines histoires, il vaut mieux se tenir loin. Je me dis d'accord, mais je restais troublé. En fin de compte, j'étais un étudiant qui participait à des défilés, et une rencontre avec la police me mettait mal à l'aise. Nous arrivâmes au meublé. Pas des plus reluisants, loin du centre. On nous orienta tout de suite vers l'appartement, ainsi le qualifiait-on, du colonel Ardenti. Des agents dans les escaliers. On nous introduisit au numéro 27, 7 et 2, 9, pensais-je. Chambre à coucher, entrée avec une petite table, kitchenette, petite salle de bain avec douche, sans rideau. Par la porte entrouverte, on ne voyait pas s'il y avait un bidet, mais dans un meublé de ce genre, c'était probablement la première et unique commodité que les clients exigeaient. Ameublement insignifiant, pas beaucoup d'effets personnels, mais tous en grand désordre. Quelqu'un avait fouillé en hâte dans les armoires et dans les valises. Peut-être avait-ce été la police? Entre agents en civil et agents en uniforme, je comptais une dizaine de personnes. Un individu assez jeune, aux cheveux assez longs, vint à notre rencontre. Je suis De Angelis, professeur Belbo, professeur Casaubon.
Je ne suis pas professeur, je n'ai pas fini mes études.
Étudiez, étudiez. Si vous ne passez pas votre licence, vous ne pourrez pas vous présenter au concours pour entrer dans la police, et vous ne savez pas ce que vous perdez.
Il avait l'air agacé.
Excusez-moi, mais nous allons tout de suite commencer par les préliminaires nécessaires. Voilà, ça c'est le passeport qui appartenait à l'habitant de cette pièce, enregistré comme colonel Ardenti. Vous le reconnaissez ?
C'est lui, dit Belbo. Mais aidez-moi à m'y reconnaître. Au téléphone, je n'ai pas compris s'il est mort ou si...
J'aimerais tant que vous me le disiez, vous, dit De Angelis en faisant une grimace. Mais j'imagine que vous avez le droit d'en savoir un peu plus. Donc, Monsieur Ardenti ou le colonel Ardenti, s'il y tenait, était descendu ici depuis 4 jours. Vous avez dû apercevoir que ce n'est pas le grand hôtel. Il y a le portier qui va se coucher à 11 heures parce que les clients ont une clé de la porte d'entrée, une ou deux femmes de chambre qui viennent le matin pour faire les chambres, et un vieil alcoolo qui fait office de porteur et monte à boire dans les chambres quand les clients sonnent. Alcoolo, j'insiste, et artériosclèreux. L'interrogé a été un supplice. Le portier soutient qu'il a la manie des fantômes et a déjà filé la trouille à quelques clients. Hier soir, vers 10 heures, le portier voit entrer Ardenti en compagnie de 2 personnes qu'il fait monter dans sa chambre. Ici, ils ne font pas gaffe si un client fait monter une bande de travestis. Alors, 2 personnes normales, même si d'après le portier, ils avaient un accent étranger. À 10h30, Ardenti appelle le vieux et se fait apporter une bouteille de whisky, une d'eau minérale et 3 verres. Vers 1h ou 1h30, le vieux entend sonner dans la chambre 27. Par à coup, dit-il. Mais d'après l'état où on l'a trouvé ce matin, à cette heure-là, il devait avoir éclusé pas mal de petits verres de quelque chose et de la raide. Le vieux monte, frappe à la porte, on répond pas, il ouvre avec le passe-partout, trouve tout en désordre. Tel que c'est à présent, et le colonel sur le lit, les yeux exorbités et un fil de fer serré autour du cou. Il se précipite dans les escaliers, réveille le portier, aucun des deux n'a envie de remonter, il saute sur le téléphone, mais la ligne semble coupée. Ce matin, il marchait très bien, mais accordons leur crédit. Alors le portier court vers la petite place au coin où il y a un téléphone à jetons pour appeler le commissariat de police, tandis que le vieux se traîne du côté opposé où habite un docteur. Bref, ils y mettent 20 minutes, reviennent, attendent en bas, tout effrayés. Dans l'intervalle, le docteur s'est habillé et arrive presque en même temps que la voiture panthère de la police. Il monte au 27 et sur le lit, il n'y a personne.
Comment personne ? Demanda Belbo.
Point de cadavre. Le médecin s'en retourne chez lui et mes collègues ne trouvent que ce que vous voyez. Ils interrogent vieux et portier, avec les résultats que je vous ai dit. Où étaient passés les 2 messieurs montés avec Ardenti à 10 heures ? Qui sait ? Ils pouvaient être sortis entre 11h et 1h et personne ne s'en serait aperçu. Ils étaient encore dans la chambre quand le vieux est entré ? Qui sait ? Lui, il y restait 1 minute. Et il n'a regardé ni dans la kitchenette, ni dans les cabinets. Ils peuvent être sortis alors que ces 2 malheureux allaient chercher de l'aine et en emportant avec eux un cadavre ? Ce serait pas impossible ? Parce qu'il y a un escalier extérieur qui finit dans la cour, et là, on pourrait sortir par la porte d'entrée qui donne sur une rue latérale. Mais surtout, y avait-il vraiment un cadavre ou le colonel s'en était-il allé, disons, à 1 minute, avec les 2 types, et le vieux a eu des visions ? Le portier répète que ce n'est pas la première fois qu'il a la berlue. Il y a des années, il a dit qu'il était tombé sur une cliente pendue, nue, et puis la cliente était rentrée 1/2 heure plus tard, fraîche comme une rose. Et sur le lit de sangle du vieux, on avait trouvé une revue sadoporno. Il pouvait bien avoir eu la belle idée d'aller lorgner par le trou de la serrure la chambre de cette dame. Et il avait vu un rideau qui s'agitait dans la pénombre. La seule donnée certaine, c'est que la chambre ne se trouve pas dans un état normal. Et Cardenti s'est volatilisé. Mais bon, j'ai trop parlé à présent. C'est votre tour, professeur Belbo. L'unique piste que nous ayons sous la main, c'est une feuille de papier qui était par terre à côté de la petite table. 14h, hôtel Principe et Savoya, monsieur Rakowski. 16h, gare à Mont, monsieur Belbo. Vous m'avez confirmé qu'il est venu chez vous. Dites-moi ce qui s'est passé.